Bonjour à toutes et à tous, je suis Antea Mariani, vous êtes bien sûr Acid Radio, la radio qui passe l'actu au crible. Merci de vous joindre à nous pour cette émission qui portera aujourd'hui sur les mots de la France, les mots, je précise, MAUX. Avant d'aborder la programmation, c'est le flash info de Rose Leray Parmentier. Bonjour Rose.
Bonjour Antea, bonjour à toutes et à tous. Le journaliste et essayiste Jean-François Kahn est mort à l'âge de 86 ans, fondateur de l'hebdomadaire Marianne. Le Premier ministre lui a rendu hommage sur X, saluant un géant et un homme rare qui incarnait le centrisme révolutionnaire. Jean-François Kahn avait soutenu à plusieurs reprises la candidature de François Bayrou à l'élection présidentielle. Le mouvement Emmaüs a voté à 91% en faveur du retrait de la mention Fondation Abbé Pierre sur leur logo, un changement d'image inscrit dans la démarche de reconnaissance et de respect à l'égard des victimes, selon un communiqué d'Emmaüs. L'homme décédé en 2007 est accusé de violences sexuelles par plus de 30 victimes. L'eau potable des Français serait massivement contaminée par les PFAS, des polluants éternels. Ils ont été retrouvés dans l'eau d'une trentaine de villes françaises, notamment à Lyon, Paris et Bordeaux. Les résultats d'analyse montrent une présence massive d'acide trifluoracétite, un polluant chimique particulièrement résistant. L'UFC Que Choisir et l'ONG Génération Future, auteurs de cette enquête, réclament l'adoption de normes plus strictes et protectrices. Et enfin, au nord de Los Angeles, un nouvel incendie a fait rage, et a déjà détruit plus de 4000 hectares. Face au danger, des milliers d'évacuations ont été ordonnées, tandis que plusieurs routes ont été fermées. Près de 4500 pompiers ont été mobilisés pour tenter de maîtriser l'incendie.
Merci Rose pour ce flash info. Retour au titre maintenant avec au programme le cas de l'excellence noire que nous expliquera Mathis Dussault, suivi du reportage de Ryan Tang sur la cyberpédocriminalité. Après la pause musicale, Samuel Barbotin nous emmènera à Beaumont-sur-Oise pour parler de la désertification des centres-villes et Clara Moral nous exposera les difficultés d'accès à l'emploi pour les femmes portant le voile. Tout de suite donc, notre premier reportage avec pour postulat de départ « Et si l'excellence pouvait être un fardeau ?» C'est la question sur laquelle s'est penché notre reporter Mathis Dussault en réalisant un reportage sur l'excellence noire. Ce phénomène projetant la réussite des personnes noires est souvent calqué sur des attentes disproportionnées. Ce que notre journaliste a rencontré en parle comme un mantra autant inspirant qu'oppressant.
Tu dois être au moins deux fois plus performante qu'eux pour obtenir la moitié de ce qu'ils ont.
Motivé par un désir de lutte contre la suprématie blanche et son regard, l'envie d'excellence noire célébrée par des figures de la musique afro-américaine comme Nina Simone ou Aretha Franklin peut être vécue tant comme un idéal que comme un fardeau. Rocky Adosso, journaliste et militante afro-descendante, Mohamed Sissé, étudiant en master de relations internationales, partagent leur rapport à l'excellence noire.
L'excellence noire, c'est un concept qui nous vient tout droit des États-Unis. C'est l'idée que l'identité plutôt des personnes noires n'est pas définie que par ses souffrances passées, mais au contraire, elle a plutôt une histoire glorieuse.
C'est une notion à laquelle beaucoup de Noirs essaient de se rattacher en se disant qu'il faut au final essayer de trouver une place dans un monde où on en est fragilisé et à mon sens, d'éviter aussi la notion d'assimilation.
La définition de la réussite et de l'excellence varie énormément d'un individu et d'une communauté à l'autre. Parfois, réussir peut aussi rimer avec suivre le modèle capitaliste dominant.
Plus on avance, plus on se rend compte que finalement, on ne se libère pas forcément de ces normes-là. On se retrouve à porter des fardeaux terribles. Et en fait, on forge une illusion de personne noire qui aurait acquéri la liberté, mais en réalité, elle ne s'est pas totalement libérée de ses chaînes.
Après, c'est une notion, je me répète, qui peut être ambivalente. Elle peut être source de souffrance, d'un sentiment d'illégitimité aussi. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question qui est exclusive à la communauté noire, mais à généralement toutes les personnes issues de pays du tiers-monde. C'est toujours cette question de la double identité, cette question de l'assimilation.
S'affirmer sans s'assimiler est un équilibre difficile. Des Heptones qui se demandaient si tout le monde pouvait être jeune, doué et noir, au couplet engagé de Kanye West et Jay-Z sur le morceau Murder Excellence, l'excellence noire ne fait pas toujours l'unanimité.
Que finalement, elle promeut un idéal capitaliste. Elle promeut un idéal capitaliste, l'idée d'amasser des richesses pour ne plus être victime de discrimination, c'est quand même insensé finalement. L'idée de se libérer par l'argent, de devoir travailler dur pour gagner.
Ce truc du « c'est trop bien pour moi », ce truc du « si je vais m'engager dans de bonnes études, il va falloir que j'assume la place que je prends dans ma famille, dans ma communauté, et se dire que ma réussite, ce terme de Black Excellence, doit se faire à travers moi, et cela peut générer une frustration, peut générer un sentiment d'illégitimité, et je pense que l'enjeu sera aussi de se réaffirmer à travers ça.
Mais il y a surtout une pression qu'on s'inflige dès son plus jeune âge en réalité. Soit on se l'inflige soi-même, mais c'est surtout véhiculé par nos parents ou alors la société en elle-même. Et il y a aussi ce sentiment de devoir représenter des milliers de personnes, donc, c'est-à-dire toute une communauté, de ne pas être juste un individu, mais plutôt en représentant toutes les communautés afro. Donc ça veut dire que le moindre faux pas, la moindre fausse note est rédhibitoire.
Il semble donc qu'il faille finalement mettre ce modèle à distance pour éviter de tomber dans ses travers.
Merci Mathis. Parlons maintenant de réseaux sociaux, jeux vidéo et des écrans. Des outils devenus incontournables dans nos vies, mais aussi de véritables terrains de chasse pour les prédateurs en ligne. Face à la montée de la cybercriminalité, des familles s'organisent pour protéger leurs enfants. Entre vigilance quotidienne, application de contrôle parental et campagne de sensibilisation, comment lutter contre ce fléau ?
Dans un appartement du quartier des Audenoux, en banlieue parisienne, Tram, une mère d'une quarantaine d'années, vérifie en rentrant chez elle que les comptes de ses enfants sur les réseaux sociaux restent bien privés.
Depuis que j'ai les réseaux sociaux, je n'ai jamais mis les photos de mes enfants sur les réseaux. Et même pour eux, quand ils ont leur propre réseau aussi, je les ai interdits de mettre leurs photos et que ce soit leur compte soit privé.
Mais certaines familles vont encore plus loin. À quelques rues de là, à Villiers-sur-Marne, Sandra Kim, une jeune mère, utilise une application sur son téléphone pour limiter le temps d'écran de ses enfants.
Pour mes enfants, en fait, ce que j'ai mis en place, déjà, c'est un contrôle parental. Sur chacun des téléphones, il y a ce qu'on appelle Family Link. Ça me permet de réguler, savoir le temps d'utilisation en fonction des réseaux sociaux. Je peux, à distance, cadrer et limiter si besoin l'utilisation du téléphone. Je peux couper à n'importe quel moment aussi.
Son inquiétude, les mauvaises rencontres sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo.
Et au-delà de ça, quand elles jouent en ligne, parce que ça leur arrive aussi, aucun chat. Parce qu'on ne sait pas qui est derrière le chat. C'est qu'une personne peut très bien se faire passer pour un ado de 15 ans, en réalité on a 45.
À Paris, au café Botsari dans le 19e arrondissement, Laetitia Onona, réalisatrice du documentaire pédocriminel La Traque, revient tout juste des États-Unis. Dans son documentaire, la réalisatrice souligne un tournant majeur. Pendant la pandémie, les cas de pédocriminalité en ligne ont explosé.
On a vu vraiment un tournant avec la pandémie, sauf que évidemment, avec la fin de la pandémie, ça ne s'est pas arrêté, ça a juste continué, ça s'est installé dans les habitudes.
Dans le 15e arrondissement, au siège de l'association Caméléon, Églantine Camille, chargée de sensibilisation, prépare une intervention dans une école. L'association lutte contre la cyberpédocriminalité grâce à des campagnes de prévention.
On va dans les écoles, notamment en Île-de-France, pour échanger sur ces sujets-là, donc avec un point de vue, une approche assez ludique, et on échange avec les enfants sur leurs représentations liées aux violences sur Internet, pour qu'en fait, ensemble, ils trouvent des moyens de résoudre ces situations, d'en parler, de savoir à qui en parler aussi, mais ça passe aussi par une sensibilisation des adultes qui, eux, doivent être prêts à recevoir les paroles des enfants. En France, on a 160 000 enfants qui sont agressés sexuellement chaque année, et le chiffre est certainement sous-estimé. Donc en fait, dans les classes, il y en a forcément qui ont vécu ça. Donc les enfants viennent nous voir, on est là pour accueillir leurs paroles, pour en parler et faire en sorte qu'ils soient protégés le plus rapidement possible.
Elle tire la sonnette d'alarme sur un phénomène inquiétant, le live streaming.
Pour vous raconter un peu comment ça se passe, on a un prédateur qui est le plus souvent occidental, qui a aussi de l'argent à dépenser dans ces phénomènes, qui va contacter un trafiquant. Le trafiquant donc, va recevoir la demande, un scénario aussi de ce que le prédateur veut voir, et une transaction financière via PayPal, via Western Union également. Et ensuite, on va simplement s'appeler en direct sur des applications qu'on utilise tous et toutes. Donc ça peut être sur Zoom, sur Skype, sur Messenger. Et à partir de là, on tire l'enfant du lit et on réalise l'agression.
Mais la cyberpédocriminalité n'est qu'une partie de ce fléau. La majorité des abus pédocriminels ont lieu dans l'entourage proche des victimes.
Un constat glaçant. Merci Ryan pour cette enquête exclusive. Je vous propose maintenant un petit interlude musical pour nous remettre de nos émotions. Ce sera sous le signe de la pop avec la sortie au cinéma de Better Man, biopic sur la vie du chanteur Robbie Williams. On écoute tout de suite son célèbre tube des années 80, Supreme.
Today, all the lonely hearts. best women are married, all the handsome men are gay, you feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive.
Supreme de Robbie Williams sur Acid Radio. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route pour cette émission sur les mots de la France. Les mots de la France, c'est aussi le phénomène de désertification des centres-villes français. 63 000 entreprises ont été en défaillance entre l'été 2023 et 2024, surtout celles employant moins de 10 salariés. Et ça se ressent sur l'activité des centres de nos villes françaises. À Beaumont-sur-Oise, dans le nord de la région parisienne, les rideaux de fer côtoient les quelques boutiques encore ouvertes. Notre journaliste Samuel Barbotin s'y est rendu pour prendre le pouls des habitants où les commerces manquent.
Sac de course à la main, une habitante de Beaumont-sur-Oise sort de la supérette. À 90 ans, Clotilde Clay a toujours habité dans cette commune du nord de la région parisienne. Assise sur le rebord d'une auto-école au volet baissé, elle regrette l'état du centre-ville.
Vous savez, dans le temps quand j'étais gamine, Beaumont c'était le centre de toute la région. Il y avait des marchés trois fois par semaine. Maintenant, le marché il est tombé, il n'y a plus que quelques commerçants.
Ce matin, la boulangerie Boulet est le seul commerce à animer le bourg. Baguette à la main, les clients sortent en continu de l'enseigne. Dans le temps, la commune disposait de 7 fabricants de pain. Aujourd'hui, il en reste 2, déplore Patrick, en route vers son domicile et emmitouflé dans son cache-cou.
Il n'y a rien du tout. Là, il y a eu un boulanger qui était en centre-ville. Il a fermé, on ne sait même pas pourquoi. Il y avait un café, il est fermé, il n'y a plus rien, monsieur.
À seulement 10 minutes en voiture du bourg, plusieurs grandes surfaces captent la clientèle, dont Julien. Face à l'un des multiples snacks du centre, cet ambulancier attend son burger. Il confie faire ses courses dans ses enseignes pour des raisons pratiques.
Il y avait un Intermarché à Beaumont-sur-Oise, et ils ont fermé. Il y a juste une supérette dans Beaumont-sur-Oise, mais ce n'est pas suffisant pour faire des grandes courses. Non.
Vous trouvez ça plus pratique du coup d'aller en grande surface, il y a tout à disposition?
Plus pratique, il y a tout à disposition, hein. Puis les prix sont un peu moins chers aussi que dans une supérette.
Face à la concurrence des super et hypermarchés, les boutiques indépendantes tentent de résister. L'année dernière, 3 passionnés ont ouvert une enseigne de jeux de société rue du Beffroi à Beaumont. Dans les différentes étagères, plateaux, cartes et dés attendent des clients.
Bon, la clientèle, ils sont très sympas, ils jouent le jeu, mais...
Thierry, de l'entre
des
jeux.
Ça dépend, il y a des jours où il n'y a personne, d'autres jours où ça va, parce qu'il y a de la concurrence après dans les centres commerciaux à côté, donc voilà. En fait, c'est que le centre-ville, il n'y a plus grand-chose d'intéressant, du coup, forcément, il y a moins d'intérêt d'y venir.
Pour redynamiser son centre, la municipalité de Beaumont met à disposition un local pour artisans et exposants. Ils peuvent s'y installer quelques temps afin de sonder la clientèle en vue d'une future installation. Derrière son stand, Diane, trentenaire, vend des bougies ou des fleurs confectionnées manuellement. Cette Valdoisienne ne sait pas encore si elle y restera.
C'est intéressant parce que c'est pas si cher que ça, mais si on n'a pas de clientèle, c'est ça aussi. On espère avoir du monde, mais c'est quand même pauvre en clients.
Pour aider les mairies, un atlas des centres-villes a été créé. Consultable sur Internet, cette base de données détaille les points faibles et forts de plus de 3000 communes. Pour Serge Lerda, membre de l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix, c'est un outil utile pour les collectivités.
Imaginons une collectivité qui dit, tiens, en termes de logement, moi, par rapport aux communes de ma catégorie, j'ai l'indicateur qui est plutôt mauvais. Regardons des communes de même strate qui ont plutôt des indicateurs bons. Et après, je peux me rapprocher d'eux, voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour justement être plutôt bien classés, entre guillemets, sur cet item.
Pour lutter contre la désertification du centre de Beaumont, les efforts doivent se poursuivre. Le maire a déclaré qu'une dizaine de commerces ont ouvert en 2024, même si certains ont fermé depuis.
Merci Samuel. Continuons maintenant dans le secteur du travail, mais par le prisme de l'islamophobie. Port du voile, préjugés, pression à la conformité. Clara Moral nous explique comment les femmes musulmanes font face à l'islamophobie sur le marché du travail.
Début 2022, Soraya, 36 ans et jeune maman de 2 enfants, intègre Nespresso en tant que vendeuse. Au début, le port du voile n'était pas autorisé en boutique. Quand la règle change, les réactions des clients ne se font pas attendre.
Depuis que la politique de l'entreprise a changé et donc que je peux porter mon voile au travail,
J'ai vu un changement radical, surtout venant de la part des clients. Certains décident que de m'ignorer. Hein. J'ai aussi eu le droit à des remarques du type « on n'est pas en Arabie Saoudite ».
Avant même d'être confrontée à des remarques islamophobes au travail, Inès, jeune ingénieure, nous raconte que l'angoisse commençait dès le premier entretien d'embauche.
J'ai fait le choix de ne pas mettre de photos sur mon CV, et ça c'est pour plusieurs raisons. Déjà, pour au moins avoir une chance de décrocher un entretien. Une fois, je suis arrivée à un entretien et forcément je portais mon voile, et j'ai tout de suite vu en fait que ça pouvait poser problème. Au cours de l'entretien en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ils m'ont demandé si j'étais prête à m'habiller de manière plus neutre.
Et les chiffres le confirment. Delphine Ferré, doctorante en sociologie et spécialiste de l'islamophobie, nous explique.
Une des raisons principales qui favorise les discriminations en entreprise, c'est vraiment les stéréotypes. Il y a beaucoup de gens qui associent encore le port du voile à un manque de professionnalisme ou encore à une incompatibilité avec la culture d'entreprise. Une étude de l'Institut Montaigne qui a montré que les femmes qui portent le voile ont 80% de chances en moins d'être convoquées à un entretien par rapport à une femme qui ne le porte pas.
Mais cette islamophobie ambiante a un impact direct sur la santé mentale de ces femmes.
C'est triste à dire, mais en fait, j'ai l'impression qu'on en attend plus de moi parce que justement, ils ont l'impression d'avoir fait une fleur en m'acceptant comme je suis, donc avec mon voile. Et en fait, je suis fatiguée que ces personnes-là ont cette vision et fatiguée aussi de devoir déconstruire en fait les clichés que les gens ont sur les femmes voilées. Par exemple, un jour, on a été surpris d'apprendre que je voyageais beaucoup seule à l'étranger et que je faisais aussi beaucoup de sport. Comme si les femmes voilées, en fait, elles devaient forcément rester chez elles, elles n'avaient pas le droit de vivre, elles n'avaient pas d'accomplissement dans la vie, elles n'avaient pas d'objectif.
La mise en place de politiques claires par l'entreprise pour lutter contre l'islamophobie est attendue par Soraya.
Ce qui rend ces situations encore plus frustrantes, c'est de se retrouver dans des équipes où l'on ne s'en sent pas ni soutenu ni comprise. Pouvoir compter sur mes collègues et mes managers me soulagerait.
Mais pour Delphine Ferré, ça en devient même essentiel afin de garantir un environnement de travail plus sain et respectueux.
Alors, être bien formé et savoir encadrer tous les enjeux liés à la diversité, c'est plus que bénéfique pour une entreprise, puisque des salariés épanouis, ce sont des salariés plus productifs, ce qui se reflète directement sur les résultats.
Et d'ailleurs, une étude de McKinsey révèle que les entreprises diversifiées ont 33% de plus de chances d'être rentables.
Merci Clara, notre émission touche bientôt à sa fin, mais comme le savent nos fidèles auditeurs et auditrices, une émission Acid Radio ne peut s'achever dignement sans l'horoscope d'Inès Zarouk. Inès, bonjour.
Bonjour Anthea, voici l'horoscope de ce jeudi 23 janvier. Bélier, la chance tourne et vos efforts sont remarqués au travail, félicitations. Taureau, vous avez soif de découverte, laissez-vous guider par votre instinct, il ne se trompe pas en général. Gémeaux, prudence au travail, ne soyez pas trop impulsif et modérez votre parole. Cancer, attention aux malentendus et quiproquos, privilégiez le dialogue aux actions. Lion, un peu de douceur ne vous ferait pas de mal aujourd'hui, à vous de prendre les choses en main. Du côté des vierges, ne soyez pas trop naïfs, faites plutôt attention à vos relations amicales ou amoureuses. Balance, ne prenez aucun risque au travail, mais ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Scorpion, placez tout votre dynamisme dans votre relation, ces efforts seront aussi récompensés. Du côté des sagittaires, être gentil c'est bien, mais attention à ne pas se faire avoir par des personnes mal intentionnées. Capricorne, des tensions familiales vous préoccupent, n'hésitez pas à apaiser la situation. Côté cœur, les Verseaux, prenez votre temps avant de vous précipiter dans une nouvelle aventure. Et enfin, pour les poissons, laissez votre esprit d'initiative s'exprimer. Cela rendra le quotidien plus heureux.
Merci Inès. Bah, comme je suis poisson, je tâcherai donc de bien suivre mes intuitions. Mesdames, messieurs et autres, c'est la fin de notre émission. On se retrouve demain 18h pour notre édition spéciale Culture Underground en France.